17h à 18h.
Gonzo Club.
Le Gonzo Club.
Sur HTL.
Oui, bienvenue à tous dans le Gonzo Club, comme tous les jours de 17h à 18h sur l'antenne d'HDR. Un moment un peu particulier hein, sur l'antenne d'HDR, puisque c'est le moment des Gonzo. Les Gonzo, alors personnage à peine défini, le Gonzo, petite bête étrange, un peu poilue ou pas du tout, un peu asexuée ou très très sexuée, on ne sait pas trop hein, qui sont véritablement les Gonzo, sauf qu'ils sont toi, qu'ils sont moi, qu'ils sont nous. Il y a ici une Gonzo qui va parler tout à l'heure, qui s'appelle Manuela Dikoumé. Bonjour Manuela.
Bonjour.
Et il y a également un autre Gonzo ici, c'est Gonzo Moschetto.
Bonjour.
Et il y a l'imam, rabbin, révérend père, chaman, Chagou sur HDR dans le Gonzo Club.
Le révérend Chagou vous parle.
Oui. Oui. Rouillardi. Brother. Sister. Frangine. Frangin. Bruder. Unschwester. Con. Citoyen. Con. Citoyenne. Oui, alors, on fête sur la planète, et surtout dans 17 pays africains sur 53, ainsi qu'en France, le cinquantenaire des indépendances africaines cette année. Alors, nous ne parlerons pas du discours de Dakar, ethnocentriste et paternaliste, sur l'homme africain. Non ! Ni du soutien au dictateur historique du précaré français, Biya au Cameroun, au pouvoir depuis 28 ans, Compaoré au Burkina Faso depuis 23 ans, Déby au Tchad depuis 20 ans. Nous n'aborderons pas le soutien au putsch en Mauritanie et à Madagascar, ni la validation des élections frauduleuses au Congo-Brazzaville, ni le coup d'État constitutionnel au Niger, du coup d'État électoral d'Ali Bongo au Gabon entre 2008 et 2009. Et pourquoi parlerions-nous de l'intervention militaire française au Tchad pour soutenir Idriss Déby? Oui, mes canes, mes canards, nous ne nous étendrons pas sur la défense de la démocratie et des droits de l'homme relégués derrière la défense du business français. Areva, Bolloré, Total, Bouygues et tutti quanti. Ainsi, la population très pauvre des plus gros producteurs de pétrole du continent, comme le Gabon, continue de s'interroger sur la destination des immenses recettes pétrolières générées dans ces pays. Les entreprises françaises sont également loin d'être exemplaires en matière de responsabilité sociale et environnementale, comme l'ont montré les récents éclairages sur les conditions de travail déplorables dans les plantations du groupe Bolloré au Cameroun, ou encore sur les conséquences sanitaires de l'exploitation de l'uranium sur les populations du Gabon et du Niger. Ce qui est sûr en vérité, c'est que des enfants, des femmes et des hommes se retrouvent derrière des barreaux en France, grâce à la politique de répression des immigrés, dont les raisons de l'exil sont liées pour une grande part aux conséquences du système france-africain suscité. Alors, nous demandons, en nous faisant l'écho de l'association Survie, et à l'occasion de ses 50 années d'indépendance, la fin du soutien aux dictateurs, la restitution des biens mal acquis, l'instauration d'une politique de coopération au service du développement de la démocratie et des droits humains, l'application des principes de responsabilité sociale et environnementale des entreprises françaises et de leurs filiales, la suppression de la cellule africaine de l'Élysée et des réseaux de conseillers officieux, l'instauration d'un contrôle parlementaire permanent et effectif sur la politique de la France au niveau diplomatique, économique et militaire, et la définition des responsabilités juridiques des décideurs français dans le génocide des Tutsis au Rwanda. Et je cite un éditorial extrait du site d'information francophone 7 sur 7, un site basé en République démocratique du Congo. Aux Africains, nous disons qu'il ne suffisait pas de s'autoproclamer nationaliste pour après l'indépendance se livrer à des rébellions, aux sécessions, aux coups d'État, à la négation de la démocratie, à la violation des droits sacrés des compatriotes, à la privatisation des ressources nationales et du patrimoine public, à la négation du développement, donc à la mauvaise gouvernance. C'est bien un journaliste de République démocratique du Congo qui parle. Et il est déplorable que les successeurs des colonisateurs, au lieu de penser au développement du pays et au progrès des citoyens, aient voué et vouent un culte solennel au pouvoir jubilatoire personnel, source d'instabilité des institutions. En cette année charnière, il est plus indiqué pour les autorités béninoises, burkinabées, camerounaises, centrafricaines, congolaises, gabonaises, ivoiriennes, malgaches, malienne, mauritanienne, nigériane, nigérienne, sénégalaise, somalienne, tchadienne et togolaise de demander pardon à leur peuple pour des promesses non tenues depuis 50 ans, pour la pauvreté et le sous-développement qu'elles ont installé. Amen.
De 17h à 18h,
le Gonzo Club, 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 Club.
Alors, ça y va ou quoi? Hein? Vous êtes dans le Gonzo Club sur HDR 99.1.
Tonga soy, tonga soy. de África, ni el azar así como con tondara, con gaso, de África, ni el azar así como con tondara, con gaso.
Bibi Tanga and the Selenites sur HDR dans le Gonzo Club, extrait du dernier album de Bibi Tanga and the Selenites.
Jusqu'à 18h, c'est le Gonzo Club sur HDR.
Eh ouais, c'est le Gonzo Club sur HDR. Alors, petit sommaire rapide, parce qu'on a quelqu'un de très très bavard en invité aujourd'hui dans le Gonzo Club. Donc, je peux vous dire que ça va débiter du mot à la seconde, vous allez voir. Pour l'avoir pratiqué un petit peu ces derniers temps, je peux vous dire que ça tchatche, hein, vous allez voir. Vous allez pouvoir le constater. Donc, on va se dépêcher. C'est Manuela Dikoumé qui est là. Manuela Dikoumé qui est artiste peintre, plasticienne, architecte. Alors, on n'a pas l'habitude de recevoir comme ça habituellement des gens en dehors de l'univers de la musique, mais le Gonzo Club va s'ouvrir désormais aux autres arts, puisque la musique populaire est un art. Je sais pas ce que vous en pensez, Manuela Dikoumé. Est-ce que la musique populaire est un art? Parce que j'ai eu une discussion avec quelqu'un il y a pas très longtemps qui me disait non, l'art, la culture, c'est l'opéra par exemple, mais on peut pas dire que la musique populaire ce soit de l'art ou de la culture. Alors qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes au cœur des arts classiques, un peu la peinture, c'est un petit peu un art classique.
Un art classique, mais bon, c'est-à-dire que pour moi, en fait, la culture, c'est la vision de la société. C'est-à-dire tout est culturel. Un boulanger pratique son art de la pâtisserie, voilà. Donc tout le monde a son enseigne. Il n'y a pas d'art majeur et d'art mineur. Il y a un art, et l'art, je dirais, est lié à la culture. Mais on ne peut pas faire de scission entre les deux.
Je suis d'accord avec vous. Personnellement. Je suis d'accord avec vous. Ça me donne envie de vous embrasser. Je ne le ferai pas parce que je vous respecte. Et alors donc, dans quelques instants, nous aurons peut-être également un morceau des Gladiators, puisque sachez, Monsieur Mosquito, que les Gladiators sont en concert à l'abordage d'Evreux ce soir.
Ou ce qu'il en reste.
Ouais, enfin bon, les Gladiators, c'est les Gladiators.
Peu importe ce qu'il en reste. Excusez-moi, ce qu'il en reste, quoi. Parce que c'est un peu le fils de Albert Griffiths qui a repris un petit peu le flambeau.
Ouais. Apple ça vaut pas le coup, c'est ça que vous voulez dire?
Ah non, si, pourquoi pas. Hein.
Ah bon.
si.
Ça s'appelle les Gladiators, je suis désolé.
Oui, enfin bon.
Ouvrez le programme de l'abordage, vous allez voir, ça
s'appelle
les Gladiators.
D'accord, ok. Bon, bah, vive les Gladiators.
Alors. Peut-être qu'on aura l'occasion d'écouter également un extrait du nouvel album d'Erika Badu. C'est un album qui sort aujourd'hui. Et puis, on aura peut-être une doublette, mais ça, c'est quand même loin d'être sûr.
Ouais.
Et puis, moi, j'ai.
C'est bête parce qu'elle est bien, ma doublette,
en
plus.
Ouais, elle sera bien tout au long de la semaine. Et puis, moi, j'ai même récupéré une chorale virtuelle. Un truc de malade, un truc qui a été fait avec YouTube. En fait, 185 personnes qui, chacun dans leur coin, ont interprété une partition et ensuite ça a donné une chorale avec 185 personnes filmées comme ça sur YouTube, récupérées sur YouTube. Vous trouvez pas ça extraordinaire?
Bah non, parce que je n'aime pas moi les chorales. J'ai horreur de ça.
Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié.
Ah non,
ouais.
Cette espèce de joie là.
Là c'est pas très joyeux.
Joie forcée. Là,
non, là c'est pas très joyeux là.
Ah bon, d'accord.
Non, c'est pas très joyeux.
Bon, bah, très bien.
Bon, on verra ça tout à l'heure. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on retrouve dans quelques instants Manuela Dikoumé sur HDR dans le Gonzo Club. Vas-y, dis-le.
De la soul. He's dead.
Wow.
Me and boss Hawk was kind of hungry. Like two eggs and a sloppy slice of lettuce. And a glass of milk and some cookies. Spotted in the mist was the BK logo. What we said, well, what do you know? The chick thought I was trying to play fly because I had a pair of blue jeans on. Young girl, won't you take my order? She said, yeah, but right now I'm sort of busy. Don't you see me trying to put this band-aid on my finger? Lingering, I can tell. She's a BK, mademoiselle. Wrinkly uniform and bottom bell and some jelly stuff on her sleeve. Look to this cause I had no name tag on my collar. Could be pissed cause she's clocking 2:45 an hour. And then boss will holler.
Girl, you better make this quick.
She said I ain't your girl and I ain't your chick. I had an idea of lickety split. Took my hat off and that was it. Dreadlocks falling all over me. And then I said, yeah, now we'll see. And oh, with quick velocity, honey was mesmerized. Ain't you that guy? Ain't you that girl? They are so right, no Tracy Chapman. Why don't you come over to the counter and write me out an autograph? Ha, 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 I had to laugh. She was quick with the bit just to get that autograph. But me and Hall just laugh and laugh. What's the name of that song you sing? Living in a fast car, said. Forget about the order I made. I'll go get a slice of pizza instead. Biddy's in the BK lounge. All they do is beg and they scrounge. Biddy's in the BK lounge. The biddy's in the BK lounge.
Biddy's in the BK Lounge. All they do is beg and they scrounge. Biddy's in the BK Lounge. The Biddy's in the BK Lounge.
Super bitch.
What's taking him so long, Shoshana?
Yo, I don't know, Rosita, because I've been waiting out here too long.
And for a cheeseburger?
Yo, I thought you had
he's
chicken
too
rice.
Busy looking at these girls.
And he's supposed to be the manager.
Manager? Hello, excuse me. Yo, would you take my order?
Take care.
What's up? Yo, excuse me. Excuse me, would you take my order? I have to go. Shoshana's got a real job back, don't you know?
Oh yeah, it's you. Now I recognize the real Biddy with the fake eyes.
Hey.
Yo, can I interest you in some burgers and fries?
Yes, you can, but you can keep your lies. Cause you know you can't diss me, but you pissing me off.
What are you talking
I know
about?
Where you live and I know that you're soft.
Yeah, right.
You're as booty as they come and you dress like a geek. My shoes cost more than you make in 2 weeks.
Look, you don't have to play fly in here. Yo, I can tell you fly by the weave that you wear.
Weave.
But you must be aware that a fly can be swatted by BK Trey. By the way, yo, here's yours.
I know you're just sweating me, so baby, kill the noise. With your polyester pants and they're also high waters.
Yeah,
look
right.
at what you do all day but take orders. You bow tie wearing, clocking and staring.
Yeah.
I know you're just a fat because you can't get the rap. I think you better chill before my man gets slapped.
Yeah, I know your man, the biggest punk in school. Selling devil rock to the fiends and the fools. With one hand, that punk I could snap. The kid is so skinny.
But yeah, we're living fat.
Speaking of fat, would you like a diet soda? Cause less fat on you would spare us all the odor. Or better yet, pour it down your pants and let the acid kill the smell that should have been left to massacre. Let me make you a deal. Take the soda free and jet. I got too much family to heed your threats.
Oh, you a family man?
Word
well,
booty.
I shouldn't be surprised if your sister's whipping burgers and your mother's
don't even try
prizes.
That.
Oh, damn, look.
What?
Here comes one more. It's your father. He just finished mopping
yeah,
the floor.
Right.
Now give them a hand. It's the BK clan, so you can't talk garbage about who I am.
Well... aren't we living foul?
Yes, we
speaking
are.
Of foul, how about some chicken for the cow? Oops, I meant you. Sorry for the mix-up, but your stomach's always big with a sexual slip-up.
Yes, I could buy you and sell you for pennies,
you
man.
Better.
I think that's something you should understand. I tried to be nice and help the poor make money. And since I know you need it, I'll go elsewhere, dummy.
Yeah, okay.
BK workers is too damn rude. I think I'll
See
go
ya.
Get me some Chinese food.
Yeah.
Here we go.
I can't be your lover.
De La Soul is dead sur HDR dans le Gonzo Club de La Soul.
Un morceau de 1991, non?
Ouais, exactement. Ouais, oh, bah, disons, vous avez une sacrée culture musicale,
non,
monsieur
voilà,
Mosquito.
Ça s'appelle la culture musicale.
Ce
exactement.
Qu'il faut vous dire, c'est qu'on était à l'instant sur Wikipédia. Hein. Alors,
ah bah,
donc...
pour citer vraiment les sources vraiment exactes.
Eh ben, ouais, exactement. Non, mais je pense que ça, c'est généralement les pages Wikipédia des artistes, elles sont visées par les maisons de disques. Donc, a priori, c'est bon. Hein.
Ah bon, d'accord.
Parce que c'est quand même un outil de communication, Wikipédia.
Ah non, pas... mais si vous le dites, de toute façon, moi, vous êtes mon supérieur hiérarchique, donc il n'y a pas de problème.
Je ne suis pas votre supérieur hiérarchique.
Et si, monsieur.
C'est nouveau, ça ?
Non,
non, moi, je ne prends pas en main vos responsabilités, mon gars.
Non, mais vous prenez les vôtres.
Bah, exactement. Donc, aujourd'hui... dans le Gonzo Club, nous allons parler de Manuela Dikoumé. Nous allons discuter avec Manuela Dikoumé. Le Gonzo Club avec Manuela Dikoumé, artiste peintre d'envergure internationale, plasticienne, architecte, père camerounais, mère française, née à Paris en 1956, avant la décolonisation, donc habitant de différents quartiers, au centre comme en périphérie, en zone urbaine comme en zone côtière, près de la mer, rouennaise en ce moment. Artiste non conventionnel qui s'intéresse à l'histoire, interdite d'exposition pour cause économique, pour cause d'huissiers zélés, pour cause de projets rouennais avortés, on n'en dira pas plus, on pourrait peut-être avoir des ennuis, passeuse d'idées également, d'ailleurs Manuela Dikoumé, je vous voyais sourire en écoutant Totem El Niño et la publicité sur Totem El Niño, quand on écoutait tout à l'heure la bande-annonce de l'album de Totem El Niño qui vous avez, tu sais, vous avez entendu le pendant la pub là.
Si j'ai entendu la dernière.
Oui.
Là, ce qui passe à l'instant.
Oui,
là,
voilà, c'est ça.
Par ouais. rapport à l'enfant éduqué par sa mère,
voilà,
etc.
C'est ça.
Ouais. Les valeurs de partage,
ouais. Ouais. Pourquoi vous souriez?
Non, je souris parce que c'est gentil, c'est très mignon, quoi.
Ouais.
Mais voilà, quoi.
Bon. Alors, vous m'avez dit, lorsque on s'est rencontrés, j'ai des choses à dire, je veux être une passeuse. Alors, c'est quoi les messages que vous voulez nous faire passer, Manuel Adikoumé? Je sais qu'il y en a beaucoup de messages, mais si on peut synthétiser un peu les choses.
Je veux, c'est une chose, j'essaye, c'est plutôt la situation où je suis, donc qui est pas très, très agréable.
Ouais.
Donc je dirais que la première des valeurs à faire passer, c'est les trois concepts de la France, hein, la liberté, l'égalité, la fraternité, dont on parle beaucoup, c'est-à-dire la République française et son concept. Alors la première des choses, c'est que vrai que l'égalité, ça me fait beaucoup sourire, parce que l'égalité actuellement, on parle de l'égalité des chances. Donc on parle de défavorisés, il y a beaucoup de mots qui sont balancés, défavorisés, diversité. On arrive à l'égalité des chances pour qui? Pour les défavorisés, pour ceux de la diversité. Alors déjà, une des premières choses, c'est de doter ce type de mot du répertoire, quoi, parce que le mot défavorisé est une insulte, je dirais, permanente aux personnes. Que signifie être défavorisé si ce n'est qui défavorise les gens? Quel est le système qui les défavorise? Donc quand un enfant déjà a une étiquette, il ouvre le 20h ou qu'il regarde avec ses parents et qu'on lui dit bah, « écoute, t'habites une cité, t'es un défavorisé ». Donc le second mot « diversité », qui pour moi est vraiment un mot, on est passé d'issue de l'immigration à diversité, et encore un de ces concepts qu'on véhicule, c'est-à-dire aujourd'hui c'est la diversité. Vous êtes quoi? Je suis de la diversité. Donc actuellement nous sommes dans les... Bon, il y a les gouvernants, il y a les politiques, hein, donc tout le monde dit « sur ma liste, je vais mettre quelqu'un issu de la diversité ». Donc on dise les mots, c'est-à-dire que tous les gens qui sont issus de l'immigration, je dirais européenne, qui a aussi également construit la France, comme les gens issus de l'immigration des ex-territoires coloniaux qui ont construit la France. Donc d'un côté, il y a ceux qui sont français, donc avec des noms d'origine russe, d'origine portugaise, d'origine italienne. Et puis la diversité, c'est quoi? En fait, faut le dire, quoi. La diversité, c'est on est un peu coloré. Donc c'est quelque chose pour moi qui déjà va à l'encontre du concept même de liberté, égalité, fraternité.
Vous pensez qu'il y a un formatage inconscient?
Gros formatage.
Est inconscient ce formatage.
C'est de la compassion, quoi. C'est-à-dire que bon, défavorisés, les pauvres, ils sont défavorisés. Alors d'un côté, il y a ceux qui estiment bon, bah, les pauvres sont là, et d'autres, il y a ceux qui ont la compassion, les bonnes intentions. Nous, on les encadre, quoi. En fait, c'est ça. Mais un gamin, enfin moi, je parle au niveau des enfants, c'est-à-dire que c'est une image négative. C'est-à-dire qu'un gosse qui toute la journée entend parler de lui parce qu'il habite dans une zone périurbaine, qu'il est un défavorisé, c'est quand même très désagréable. Quand il va à l'école en ZEP, moi j'étais présidente de parents d'élèves en ZEP en Loire-Atlantique, c'était le discours « les défavorisés ». J'ai dit « maintenant, faut arrêter, quoi ». Parce que défavorisé, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit « monsieur, vous êtes issu de quel milieu social ?» en parlant au directeur. Et j'ai dit « est-ce que tous les gens sont défavorisés de la tête ?» Parce qu'il faut considérer aussi l'esprit, quoi. Et donc, l'égalité des chances rentre aussi dans cette ligne-là. Moi, je suis d'une génération où j'ai fait mes études au lycée de Gonesse, donc étant banlieue nord, il n'y avait pas de sous-niveau scolaire. Il n'y avait absolument pas de sous-niveau scolaire. Moi, je suis architecte, d'autres ont fait Sciences Po. Il n'y avait pas d'autres de système d'inégalité. Donc, si on parle d'égalité des chances, c'est qu'il y a un système scolaire à deux vitesses. Donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir qui a enclenché ce système à deux vitesses. Et c'est, faut aller à la source. Et non pas dire, ben voilà, vous allez rentrer dans les grandes écoles, mais vous êtes dans le système d'égalité des chances. Donc déjà, on a une grosse pancarte derrière le dos. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une éducation à deux vitesses. Donc, il faut aller en amont.
Et ce que vous dites aussi, c'est que c'est dans nos têtes que ça se passe aussi. Si on veut se sentir libre,
bah bien
et
sûr.
Égaux, c'est avant tout dans nos têtes à nous. Il faut que ça
voilà,
se passe.
Voilà, c'est-à-dire que quelqu'un qui veut, il faut être à égalité dans sa tête. C'est-à-dire que déjà, ça passe par l'esprit, ça passe par le mental. Quelqu'un qui n'est pas à égalité dans sa tête, c'est-à-dire qui arrive dans un lieu, qui va avoir un complexe social parce qu'il fait partie d'un milieu justement dit défavorisé. Alors ça, on en fait une pub incroyable. Donc déjà, ça nous de liberté, elle va être restreinte. Donc ceux qui dirigent, entre guillemets, à qui on a donné le pouvoir de diriger, c'est-à-dire à qui on a donné les votes, qu'ils ôtent de leur langage ce type de mots. C'est-à-dire,
Et vous dites, ce qu'il faut, c'est revenir, vous le disiez, à la source, à l'histoire de France aussi, à l'histoire de la décolonisation, de la colonisation, de la décolonisation ensuite. Et donc, votre travail, Manuel Adikoumé, d'artiste peintre, de plasticienne, reprend des bouts d'histoire, en fait. Vous allez chercher concrètement des manuscrits, des livres, et et vous travaillez vos tableaux en rapport avec ces textes. Alors, quel est le lien avec l'histoire? Qu'est-ce que vous allez chercher concrètement?
C'est un travail que j'ai commencé. Bon, je me suis posé une question par rapport à l'art. Qu'est-ce que signifie l'art? Qu'est-ce que c'est qu'être artiste? Qu'est-ce que c'est de faire des tableaux? Est-ce que c'est rouler pour soi essentiellement pour faire des œuvres d'art comme ça, avoir son nom, gagner de l'argent? Qu'est-ce que ça veut dire un tableau accroché au mur? Ensuite, je suis venue avoir un concept, je dirais, d'une très très grosse, installation, un espace public avec les œuvres d'art, mais qui avait un rôle, qui avait un sens. C'est-à-dire que j'ai constaté que l'art coûte très cher. Les gens ne savent pas, quand ils vont voir une petite expo, ça va être 1 million d'euros, 2 millions d'euros. Donc le contribuable est celui dit défavorisé, mais qui paye quand même ses impôts. Et même s'il ne les paye pas parce qu'il a le RSA, il paye ses taxes.
TVA,
donc
ça,
ceci ouais. dit, l'art coûte cher, et coûte cher à tout le monde. Donc qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce qu'il en reste après une exposition? Une exposition qui a coûté 2 millions d'euros, qu'est-ce qu'il en reste pour la population et pour tout le monde? Donc on formate aussi les enfants par rapport à ça. L'art, il faut le comprendre. Moi, je suis partie du principe que l'art est un vecteur d'ouverture. À chaque fois que j'ai montré des pièces, très souvent, j'ai sorti certaines pièces qui n'ont jamais été montrées, mais je les ai montrées dans des LEP, etc. C'était pas pour montrer mon art, mais le fait que le regard d'un jeune ou d'un enfant voit quelque chose de différent permettait l'ouverture mentale. C'est-à-dire que les gens se libéraient d'eux-mêmes. C'est-à-dire, un enfant allait me dire, ouais, bah, tiens, il m'est arrivé ça, ça, ça. Donc, en fait, c'était un lien à la parole. C'est ce que j'ai constaté, c'est-à-dire c'est une réactivité à la parole et pas une réactivité à l'œuvre d'art. Mais l'œuvre d'art permet le dialogue.
Voilà. C'est-à-dire qu'on arrive à lire cette œuvre d'art et à en tirer quelque chose.
Quoi. Non, c'est-à-dire on arrive à se confier à la personne qui l'a fait parce qu'elle n'est pas dans la norme. Voilà.
Moi, il faut que l'artiste soit présent en permanence. Alors, ça veut dire
pas en permanence, ça ouvre un déclic. C'est-à-dire quand l'artiste intervient, c'est un déclic. Ça va être un déclic, quelque chose d'émotionnel. Bon, je sais pas d'où ça vient, mais c'est ce que j'ai constaté et je l'ai constaté sur plusieurs continents. Alors, par rapport au travail que j'ai fait sur l'histoire, c'est dans le cadre de cet espace public que j'ai conçu. Donc, je suis allée beaucoup aux États-Unis sur la côte ouest. Ensuite, je suis allée en Afrique du Sud. Donc, j'ai constaté le même phénomène. Dialogue avec les gens par rapport à un type d'art qui est pas vraiment classifiable parce que bon, je suis métisse, donc effectivement certains se dire on voit quelqu'un de noir, ouais, bah c'est de l'art africain, les autres bon, c'est pas trop où mettre quoi en fait hein. Et comme tout en France est dans des cases, c'est bon, t'es noir, t'exposes dans l'Afrique, t'es voilà. Donc moi à ce niveau-là, je suis restée très en retrait par rapport aux mouvements qui ont été montés. Et c'est toujours la même logique, c'est-à-dire diversité, couleur, mais il faut cataloguer, il faut mettre les gens dans des cases. Alors ce que j'ai constaté, surtout en allant aux États-Unis, c'est qu'un énorme travail a été fait sur l'histoire depuis très longtemps. C'est-à-dire que les USA ont assumé leur histoire. Ils l'assument. Il y a des universités entières comme UCL, etc., qui travaillent sur l'histoire. La France a un gros problème au niveau historique, notamment au niveau de son histoire coloniale. C'est-à-dire on passe surtout à l'après-guerre, on commence à parler de la décolonisation, etc., mais l'Afrique n'a jamais été au programme scolaire. Et quand elle l'a été, elle l'est mise sous forme. Moi, j'ai des enfants qui ont 26 ans et 22 ans, donc j'ai observé tous leurs bouquins d'histoire géo. C'est l'Afrique, le tiers-monde, donc toujours quelque chose de très flou, mais toujours lié à la pauvreté, etc., etc. Bon, par contre, l'histoire coloniale, elle a été zappée. Moi, j'ai racheté des fonds d'école. C'était quand même les trois quarts du programme d'histoire géographie des gens qui ont fait l'école primaire en 1940-1945. Donc, c'était le deuxième empire colonial. Donc, la France, à ce niveau-là, c'est un gros tabou. On ne veut pas parler de ça et on passe directement à l'immigration.
Vous dites qu'il y a même une génération entière qui a été complètement zappée aussi.
Bah, qui est zappée. C'est-à-dire que moi, je suis la génération, je dirais, des années 50. Donc, il y a la génération de mon père. Donc, c'est cette génération qui a fait tous les gens qui ont été mis en place, je dirais, sur le territoire, sur l'espace francophone en Afrique. Donc, cette génération, moi, je suis issue de cette génération, donc fille d'eux. Et puis après, il y a la génération d'après. Donc nous, notre génération, il y a eu la génération de mon père, donc ces gens qui sont venus en France, boursiers ou non boursiers. Moi, mon père n'était pas boursier. Ça a coûté très cher à mon grand-père son certificat d'immigration, que j'ai, qui est original, parce qu'on était issus des familles, je dirais, dérangeantes, parce que c'était les grandes familles de notables qui, elles, avaient leur rôle au niveau coutumier. Et la colonisation, le colon ne pouvait pas vraiment s'acclimater de ces familles, quoi, en fait.
Donc là, on va revenir sur cette ouais. question et notamment sur votre passage à Paris, votre vie à Paris et le début de votre vie à Paris et l'histoire dans laquelle vous avez été plongé, l'histoire de France. Hein. C'était en octobre 61 à Paris. On revient là-dessus juste après ce morceau de La Cabine, Mémoire des luttes dans le Gonzo Club.
J'ai combattu auprès du tien dans la Sierra Maestra. Versé des larmes quand ils l'ont tué, fait de même pour Zapata. Sous le poids de 500 ans d'oppression, mes veines se sont ouvertes. Et parcouru une histoire populaire américaine aux côtés des fameux States. Épousé la révolte de Jackson et vu devant mes yeux la mort. Connu l'histoire du Black Panther parti auprès de Newton et crié mort au port. J'ai haï les matins plus de 20 ans comme Jean-Marc Rouillant. Entre grève de la faim et torture blanche, sans repentance et sans reniement. J'ai pleuré, crié, espéré, lutté pendant la guerre d'Espagne. Me suis réfugié avec des basques dans les villages de Bretagne. Porté le drapeau de la CNT dans la colonne de fer. Me suis enfui du bagne de Cayenne avec au pied les fers. J'ai affronté Big Brother en 1984. Combattu dans les milices du Boom avec Orwell. Dans la crasse des tranchées face aux attaques. Monté des barricades pendant la commune de Paris. Dos au mur comme les fédérés, la tête haute devant les fusils. J'ai crié Yabasta le 1er janvier 94. Bouffé 6 ans de tôle avec mon père et les Tupamaros. Pris d'assaut l'ambassade du Japon avec le MRTA. Levé la calache et le poing en hommage à Nestor Selpa. J'ai connu Bader, la RAF, les Brigades Rouges et les CCC. Que les vivent la Palestine auprès des militants du FPLP. J'ai vu Carlo Giuliani tomber sous les balles de la police du capital. Concentré tellement de rage dans mes putains de veines. Prêt à exploser comme un black bloc à Seattle ou à Gênes. J'ai arpenté le couloir de la mort auprès de Léonard Pelletier et de Mumia. Lutté pour l'indépendance du Sahara et crevé dans les prisons de Kenitra. J'ai eu les mains tranchées comme Victor Jara. Et ma guitare s'est transformée en une calache contre les paras. En novembre 2005, je me suis révolté dans les cités de France. Épaulé par une jeunesse en colère et méprisé depuis l'enfance. J'ai foutu le feu à ma cellule dans ce putain de centre de rétention. Soutenu la lutte et sans papier manifesté contre les expulsions. Gardé la tête haute sous les sifflets des ouvriers français. Laissé peu de place à la consternation. Fils de prolo étranger, héritier des luttes de l'immigration. J'ai côtoyé la misère dans les bidonvilles de Nanterre. Me suis noyé dans la Seine le 17 octobre 61 avec plus d'une centaine de mes frères. J'ai vu pleurer ma mère, ses larmes coulant sur le corps de mon petit frère. Nouvelle victime d'une bavure policière.
Sur HDR, dans le Gonzo Club, la cabine avec la mémoire des luttes et justement la cabine qui commence quasiment par octobre 61. Vous étiez à Paris et vous avez vécu cette répression policière à Paris envers les Algériens qui étaient présents en région parisienne à ce moment-là.
Alors ce qui est intéressant, moi à l'époque j'avais 5 ans. Ouais. Ce qu'il faut se dire, c'est que le travail que je fais actuellement sur l'histoire, c'est un travail que l'on fait après. C'est-à-dire qu'on a conscience, l'enfant, il est en pleine période historique. C'est-à-dire que moi, je suis née en 56, c'était en pleine guerre d'Algérie, dans le 18e arrondissement. Bon, c'est vrai que dans le 18e, à l'époque, il y avait deux enfants métis, ma sœur et moi, une antillaise et une enfant qu'on appelle française musulmane algérienne. C'était le terme qui était à l'époque. Voilà, qui habitait en face de chez moi, dans mon petit passage. Mais mon père a toujours été le seul Africain partout. Donc, quand on est enfant, on voit pas, on sait pas dans quelle période historique on est. Hein, on le vit au jour le jour. Donc c'est vrai que c'est des années après, quand j'ai demandé à ma mère, j'avais le souvenir de cette très très bonne copine qui était ma copine, le souvenir qu'elle était seule avec sa mère et d'autres enfants. Le 17 octobre, je ne l'ai pas vue. Je ne l'ai pas vue, c'est le jour de mon anniversaire. Mais un enfant, on cache les choses. J'étais restée dans le passage. C'est en demandant à ma mère, j'ai dit, mais au fait, qu'est-ce qui s'est passé le 17 octobre? Et c'est là qu'elle m'a expliqué, parce que moi j'ai le souvenir de ma copine Azina, dont je me rappelle très bien. On allait voir sa mère et tout. Ma mère en fait portait des colis. Ce qui s'est passé, c'est que le père de ma copine a été raflé. Il avait des hôtels, plusieurs hôtels à Paris qu'il avait revendus. Il avait des espèces. Il comptait rentrer en Algérie pour monter un garage. Et en fait, le jour de la rafle, en fait, on l'a raflé chez lui. On lui a pris tout son argent et on l'a mis à la santé. Donc pendant 5 ans, ma mère m'a dit, j'ai porté les colis. Donc c'était ma mère qui faisait le lien entre son épouse et lui-même. Elle a porté pendant 5 ans les colis et écrit les courriers à la santé. Donc moi, visuellement, je n'ai rien vu. C'est-à-dire que moi, je dirais que ma première ratonnade que j'ai vue, j'avais 9 ans. C'était le jour où j'allais chercher mes papiers d'identité. Mais je ne savais pas. C'est-à-dire que c'est à 16 ans que j'ai compris que ce que j'avais vu, je rentrais à l'époque, on allait chercher les papiers, en fait, c'est dans un commissariat. Il y avait, je me rappelle, un monsieur complètement ensanglanté, tout, on me l'a caché. Et puis, on m'a fait monter. Donc, c'est quand j'ai eu 16 ans que j'ai eu plus conscience des choses que j'ai compris ce que j'avais vu à l'époque. Mais en tant qu'enfant, on nous préserve. Quoi,
c'est une partie de l'histoire française qui a longtemps été cachée, hein, cette période-là, cette journée-là du 17 octobre 1961. Est-ce que on nous a volé une partie de notre histoire, vous qui donc collectionnez, j'allais dire.
Voilà. C'est-à-dire que le problème, c'est que on sort les choses quand ça, voilà, quand c'est un peu chaud. Alors vous allez voir sur la 2 le 17 octobre 61. Et je me rappelle la première fois qu'on a parlé quand il y a la fameuse commémoration qui a été faite. On balance ça directement au grand journal. J'étais chez une amie, Jamila, et son fils me dit « Manuela, qu'est-ce que c'est que le 17 octobre 61 ?» Donc je lui explique. Mais c'est-à-dire sortir l'histoire d'une façon sporadique, sans qu'il y ait une chronologie, personne n'y comprend rien. Par contre, c'est violent. Parce qu'à la même époque, quand on a commémoré le 17 octobre 61, il y a eu cette fameuse plaque qui a été faite, etc. Deux semaines avant, on voyait un monsieur avec son cache sur l'œil qui parlait de la torture en Algérie. Donc on balance des choses, je dirais, qui sont graves, mais de façon non chronologique, de façon violente, et je dirais qui ne sont pas, qui ne donnent pas une compréhension globale des choses.
Ça fausse un peu la réalité.
C'est pas que ça fausse la réalité, cette réalité, elle a eu lieu. Mais ça fausse, c'est-à-dire qu'on ne comprend
pas tout.
La compréhension et toute la logique la logique de l'empire colonial, c'était quand même une logique. C'est un terme. Ouais, même l'école de la République, par exemple, quand on ressort, moi qui fais, là j'ai fait un tableau, par exemple, sur bon, qui est très, c'est toujours très symbolique. J'utilise toujours des éléments de l'époque. Bon, Jules Ferry, son concept, c'était quand même les races inférieures et les races supérieures. Donc, faut pas l'oublier. Dans les cartes de géographie que j'ai des époques 45, donc il y avait la race blanche, la race noire, la race jaune, et les Arabes, c'était pas marqué race, c'était marqué conquérant. Avec une flèche. Donc ça, c'est ce qu'ont appris les gens que j'ai connus. Moi, j'ai toujours été très proche des personnes âgées, toujours depuis l'âge de 15 ans. J'ai toujours connu des gens de 70 ans, 80 ans, etc. J'ai toujours en phase, en fait, avec ces personnes parce que je les écoutais déjà, d'une part. Et d'autre part, ils ont une vision des choses. Quand quelqu'un de 70 ans me parle des colonies en parlant de l'Afrique, ça ne me choquait pas parce que cette personne a appris ça à l'époque de son certificat d'études. Donc, ces documents sont intéressants. Moi, on me traitait de négresse à plateau. J'ai même jamais dit à mes parents. Bon, je savais que c'était une insulte puisque ça émanait de gens qui étaient de ma génération, qui étaient agressifs avec moi. Pas de l'école, parce qu'à l'école, on était les seuls, donc en même temps, on travaillait très bien. Bon, moi, j'avais toujours zéro de conduite, mais je travaillais très bien quand même. Ce que je veux dire, c'était avec les enfants de mon âge que j'avais des problèmes. On disait négresse à plateau, je savais que c'était une insulte, puisque c'était une agressivité. Par contre, je ne savais pas ce que ça signifiait. Et en rachetant ces fonds d'école, bon, je l'ai su après, en m'intéressant à l'art premier, etc. Et quand j'ai racheté ces fonds d'école, qu'est-ce que j'ai vu? Les premières images, parce qu'il y avait beaucoup de films à l'époque et beaucoup de diapositives, c'était la négresse à plateau. Voilà. Donc en fait, tout vient avec un retardement, c'est-à-dire que la compréhension des choses. Donc ça veut dire que les choses sont véhiculées mentalement. C'est-à-dire ces enfants qui me disaient négresse à plateau ne savaient pas eux-mêmes ce que ça signifiait. C'était véhiculé par des grands-parents, des parents, par des choses qu'on a appris au travers de l'éducation nationale. Alors ressortir ces documents aujourd'hui, est-ce que ça pourrait être, est-ce que je peux effectivement avoir un procès avec SOS Racisme? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très dures. J'ai
dans vos peintures, vous voulez dire?
Dans mes peintures, dans les documents. C'est-à-dire dans mes œuvres, mes œuvres sont des vecteurs, c'est-à-dire je vais avoir une œuvre. Par exemple, là, je suis en train de faire quelque chose sur Vichy, sur Vichy, ok. Donc là, il y aura quelques documents. C'est-à-dire que cette œuvre sera juste un vecteur intermédiaire, et ensuite les œuvres, les documents historiques qui existent, parce que tous ces documents existent. Beaucoup d'historiens ont travaillé. Tous ces documents existent. En fait, ce sont des vecteurs. Ça va être des phases, voilà. Un tableau, et ensuite il y aura toute cette époque. Donc c'est vrai qu'il y a des bouquins qui sont très durs. J'ai des bouquins de 1930, sociologie coloniale. Donc là on voit alors le métis, les races, etc. C'est 1930, mais c'était la logique de l'époque. Donc mon propos, c'est pas de créer de l'amertume, c'est de dire il y avait un mental qui était celui-ci. Donc maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est le mental d'hier et le mental d'aujourd'hui. Et très souvent, on retrouve des liens. Alors, est-ce que c'est conscient, est-ce que c'est inconscient? En ZEP, moi, à un moment donné, j'ai dit, je suis désolée, avec les documents que j'ai sur l'école indigène, les propos que vous tenez aujourd'hui, je vous amène les documents, c'est la même logique. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Même logique, même résultat. Donc, faut faire très attention, quoi.
Donc, et votre volonté, donc c'est ça, c'est par le biais de vos œuvres et de documents historiques associés, c'est d'arriver à retracer
fresque historique, et de dire que tout se passe dans la tête. Voilà, c'est une fresque historique, c'est-à-dire pour que chacun sache où il est. Et qu'on arrête de visualiser les gens comme ça. Bon, et je dirais que je fais le lien aussi, c'est-à-dire que je suis pas un seul côté, quoi, que l'Afrique, etc. Non, je fais le lien, c'est-à-dire que l'histoire ouvrière des Français, du peuple français, elle est en comparaison directe avec l'histoire des ouvriers du système colonial, parce que c'était la même logique. Donc on met les gens dans l'adversité, tant qu'on ne sortira pas ces documents, on ne comprendra pas. Quand le nègre marron, on lui coupait la jambe ou qu'on lui mettait la fleur de lys, on lui tatouait. À l'époque, en France, le pauvre Français qui volait, lui, on le mettait, c'était peine de mort avec la roue, le plomb dans la bouche, on l'écartelait en place publique. Donc l'un n'était pas un être humain, était un meuble. Donc pourquoi on lui coupait la jambe? Parce que c'était un meuble, et un meuble, en plus, quand ça vous appartient, on va pas le mettre à la poubelle. Et l'autre était un être humain. Mais comment étaient traités l'un et l'autre? Donc c'est là qu'on voit, et pour l'histoire ouvrière, c'est exactement la même chose, quoi.
Alors, alors vous avez une statue, enfin une sculpture qui est installée donc au Cameroun.
Ouais, à Douala.
Voilà, à Douala, une œuvre originale réalisée par Manuela Dikoumé. Donc j'ai vu sur internet. Hein, donc vous connaissez bien le Cameroun, Manuela, vous y avez vécu un peu. Votre travail tourne donc en partie de la décolonisation, on l'a compris maintenant. Donc on parle en ce moment des 50 ans de l'indépendance de ces 17 pays africains. Quelle vision est-ce que vous avez, vous, de ce cinquantenaire?
Alors, le travail historique, c'est une partie de mon travail. C'est-à-dire, c'est la partie qui pourrit l'autre travail. Parce qu'effectivement, une artiste qui travaille sur ça, ça fait très désordre. Les positions que j'ai prises, je les paye très cher. Notamment par la non-visibilité. On se suit dit, tout est stocké dans des box. Ce que je veux dire, c'est que c'est une partie de mon travail. Il y a l'autre partie abstraite, l'autre partie figurative. Donc, par rapport au cinquantenaire des indépendances, je pense que ça sera axé essentiellement sur, et c'est la volonté.
C'est ça qui est extraordinaire.
C'est la volonté du chef de l'État. C'est-à-dire, on a missionné Jacques Toubon à la Cité de l'Immigration, qui est responsable, président de la Cité de l'Immigration, pour ce cinquantenaire. C'est quoi? C'est la visibilité de l'apport de la population coloniale pour la guerre de 14-18 et la guerre de 45. Et l'apport de la population africaine en France aujourd'hui. Voilà. Donc ça se limite à ça. Donc on efface, c'est-à-dire qu'on ne dit pas aussi au peuple français l'apport qu'il y a eu au niveau énergie, au niveau matières premières. Hein. Par exemple, là, je suis en train de faire un tableau sur Vichy, sur la Shoah. Bon, la place principale, bon, l'appel du 18 juin de Gaulle, Alger a eu une très grande place, notamment en 1943. Les premières grandes réunions se sont faites à Alger, quoi. Au même titre qu'à la dernière guerre, tout le blé et à l'époque du plan Marshall, tout venait d'Algérie. Donc, faut faire comprendre aux gens aussi que c'est un apport réel. La France, ce qu'elle est aujourd'hui, il n'y a pas que l'apport en être humain, il y a l'apport en matière première et en énergie. Et notamment, je dirais, dans les dernières années, sur les 30 ans en amont, moi qui travaille beaucoup sur l'énergie solaire, etc., l'Afrique, ça a été un terrain d'expérimentation pour tout ce qui est solaire, etc. Donc maintenant qu'on arrête, et quand on parle d'écologie, donc on peut parler d'écologie sur le territoire européen, mais il faut aussi parler d'écologie. L'écologie sur le territoire européen, c'est une chose, mais qu'est-ce qui se passe sur le territoire africain, avec les entreprises françaises notamment? Donc après, l'Afrique a sa responsabilité par rapport aux chefs d'État qui sont en place aujourd'hui, mais il y a toute une élite africaine qui existe, parce qu'on fait croire à tout le monde que tout le monde est illettré, inalphabète. Faut arrêter. C'est faux. Donc à un moment donné, les gens ont arrêté de faire leur étude en France à partir des années 80 parce qu'on les emmerdait trop. Donc les gens qui avaient de l'argent, les familles qui avaient de l'argent envoyaient leurs enfants aux États-Unis passer leur master. Donc il y a eu une génération qui est retournée, qui a construit le pays, une génération, la mienne, qui est allée, qui a été en place. Et puis après, ça s'est arrêté. Donc après, il y a ce délire de...
Je suis en train d'essayer de communiquer avec Monsieur Mosquito.
D'accord.
C'est pour ça que ça vous a un peu perturbé. Non, j'essayais de lui demander s'il n'avait pas dû Fela Kuti, en fait.
J'aurais
bien écouté un petit peu de Fela, parce que justement,
rebelle en chef.
Oui, puis vous avez vécu une aventure avec,
Non, pas une aventure.
Ceci dit, il en a vécu beaucoup, des aventures.
Non, mais moi, j'ai pas eu d'aventure.
Ah bon.
Et je pense pas que j'aurais aimé avoir une aventure. Il avait assez de femmes pour ça.
Oui, effectivement, c'était un tombeur. Les femmes l'aimaient beaucoup.
Bah, Fela, c'est quelqu'un qui entretenait quand même 2000 personnes, qui avait son royaume à Lagos. C'est quelqu'un qui s'est c'était un des chanteurs africains qui s'est le plus investi politiquement. Il l'a payé très cher, il est allé en prison, on a défenestré sa mère, donc c'était quelqu'un. Bon. Et en même temps, Lagos, moi j'aurais voulu aller faire mes études là-bas, mon père a refusé. Il y a une très bonne école d'architecture, c'est une des meilleures du monde. Hein. Donc ça, notamment, c'est des choses qu'on ne sait pas non plus. Il y a de très bonnes écoles en Afrique. Et Fela, à l'époque, c'était une interview, j'ai su qu'il était là. Bonjour, ça t'est fin. Je suis allée comme ça, au flanc, donc il y avait tous les journalistes, j'étais enceinte de 8 mois et je lui ai posé ma question. Il sortait de prison d'ailleurs. Donc je lui ai demandé si ces femmes, qu'est-ce qu'elles représentaient. Il m'a répondu, mes femmes sont tout juste mes amies. Quoi.
Dans le Gonzo Club, Fela, qui a d'ailleurs envoyé son fils étudier aux États-Unis pour
bien
le coup.
Bien sûr, parce que c'est...
C'est HDR 99.1 avec Manuela Dikoumé en invité. C'est le Gonzo Club et voici Fela.
Ah, I beg, let us get down into another on the ground spiritual game. I beg. After my paso paso, you go to help me end down with when
because them go here when yeah ah oh ah pass up 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 oh ah yeah 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 yeah. When they want to call, yeah. When they want to call, yeah. When they want to call, Nigerian government, them Gian name, federal military government.
Federal military government.
For Libya, them Gian name, Liberation Council.
Liberation Council.
For Liberia, them Gian name, Redemption Council.
Redemption Council.
For Zion, them Gian name, Revolutionary Council. Them get different names for different governments, but the correct name for them now soldier go soldier come federal military government
soldier go
Libya Liberation Council
soldier go
Liberia Redemption Council
soldier go
Zaire Revolutionary Council.
Soldier go, soldier come.
When Obasanjo and Yaradua shop them a fool and go. Them put civilian friends for their, them shout Second Republic. People will not know they happy. People will know them they look. Them baptize the civilian government. Then name am federal government. Me I know my their name. Me I call them soldier put soldier go. So our life for Africa, they roll since them say we get independence. The civilian governments with them day, the soldier they protected them. When our life zero lose small, they go no cool head for wall. When our life zero lose small, they go no cool head for tree. When our life zero lose small, he go no cool head for stone. When I see say our lives they roll like 1 year year ball, where 1 year year wind they blow from 1 year year corner. I put my mouth for song, Kalakuta show.
Fela Kuti sur HDR, le rebelle Fela Kuti, le révolutionnaire même Fela Kuti, et que Manuel Adikoumé a eu l'occasion de croiser, qui est notre invité aujourd'hui dans le Gonzo Club, artiste peintre, plasticienne, architecte. qui s'est un petit peu grillée à force de dire des sévérités à elle, on va dire, on peut dire ça, non ?
Ouais.
Ouais. Et alors donc on parlait du cinquantenaire, histoire que vous grilliez à fond. En ce qui concerne ce cinquantenaire des indépendances africaines de 17 pays africains, lancé par l'État français, hein, le président Sarkozy, avec Jacques Toubon chargé du dossier, qui finalement se retrouve avec un dossier un peu vide, j'ai l'impression. Apparemment, là, dans Libé aujourd'hui, on apprend que le budget qu'il espérait, il va pas l'avoir pour faire ça, et que donc ce cinquantenaire va se résumer a priori à un sommet franco-africain à Nice du 24 au 31 mai, et puis le défilé du 14 juillet ouvert au contingent des armées des anciennes colonies françaises. Libération ajoute que le symbole paraît maladroit puisque nombre de ces armées se sont illustrées ces dernières années dans des massacres ou des guerres civiles. Donc voilà où on est a priori priori, le cinquantenaire voulu par Nicolas Sarkozy, véritablement voulu, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez,
C'est-à-dire que moi, je suis allée fouiner au musée de la Cité de l'Immigration, dont on parlait ce matin d'ailleurs sur France Inter. Hein. Donc c'est dans le cadre de mes œuvres, parce que c'est toujours très chaud pour moi, mes tableaux, avec les histoires de personnes qui me harcèlent, n'est-ce pas, et qui veulent saisir mes tableaux. Mmh. Et donc, j'ai rencontré un ethnologue, et c'est vrai que j'ai vu un petit peu l'axe, donc j'ai visité toute la structure. Donc effectivement, la Cité de l'Immigration, l'ambiguïté, c'est qu'elle se trouve dans un lieu qui est l'ancien musée de l'Afrique et de l'Océanie, qui était quand même un des apanages d'une des expositions coloniales, bâtiments. Donc les colonies n'apparaissent absolument pas. C'est-à-dire que c'est l'histoire de l'immigration, il n'y a que la métropole, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les Antilles, c'est-à-dire que là c'est l'immigration en France, mais il n'y a que le territoire métropolitain. Et quand on parle en fait de l'immigration liée aux ex-territoires coloniaux, c'est vraiment mis d'une façon très pudique, on les appelle les coloniaux. Voilà. Donc les coloniaux. Donc toute personne, c'est-à-dire que c'est vraiment tabou. C'est-à-dire que l'histoire coloniale, c'est tabou. C'est-à-dire qu'on est dans la décolonisation.
Ce que vous expliquez là, et ce que vous voulez dire, c'est que dans ces commémorations, le cinquantenaire de la libération de ces pays, de leur indépendance, finalement, on va encore une fois masquer un pan de l'histoire de cette décolonisation.
L'axe qui a été donné à Monsieur Toubon, c'est de parler de l'apport des territoires coloniaux pour la guerre de 14-18, pour la guerre de 1945, et de parler des réformes qui sont en cours de l'État français avec l'Afrique, et notamment de tout ce qui est contraint concernant la défense, ça c'est écrit noir sur blanc, et de parler pour aujourd'hui de l'apport de la population africaine en France. Voilà. Bon. C'est à ça que ça se réduit. Donc par contre, c'est vrai que toute cette période historique, elle est zappée, quoi.
On va parler un petit peu de la garde à vue, puisque vous avez vécu une ou deux gardes à vue.
Deux
gardes
à
vue.
Une grosse, une petite.
Voilà, puisque justement en ce moment on parle beaucoup de la garde à vue en France. Beaucoup de gens estiment qu'il y a beaucoup trop de gardes à vue aujourd'hui en France, que ça se passe pas forcément tout le temps dans de bonnes conditions, en rapport avec certaines autres gardes à vue qui peuvent se passer dans d'autres pays européens par exemple. On se rend compte que l'accueil, on va dire entre guillemets, est un des plus mauvais en France, en Europe en tout cas. Vous avez vécu quoi?
Ben moi, j'étais un petit peu en avance parce que c'était en 2007. Hein, c'était le seul expo que j'ai essayé de faire ici. Bon, j'ai terminé le soir en garde à vue. Bref, bon, j'ai défendu un jeune. Bon, c'est quelque chose qui s'est mal passé. Deux camions. Donc, j'ai vécu quelque chose. Franchement, je pensais que j'étais dans un film. Donc, j'ai eu affaire aux compagnies d'intervention. C'est ce que j'ai su après. Puisque les camions blancs que l'on voit, on peut penser que ce sont des camions de CRS. Mais en fait, ce sont les compagnies d'intervention. C'est-à-dire que ce sont des agents de police judiciaire qui choisissent de rentrer dans ces compagnies d'intervention. Et ces compagnies d'intervention ont pour mission d'intervenir dans les cas de bagarre et de risque. Voilà, c'est ça leur rôle. Bon, dans notre cas, c'était pas ça. J'étais à l'extérieur avec ma fille. Il y avait eu un conflit à l'intérieur. J'avais défendu un jeune qui était agressé par un vigile. Donc, en tant qu'adulte, je suis intervenue. 10 personnes dehors, dont les amis de ma fille qui étaient là pour mon vernissage. Et 2 camions sont arrivés. Et bon, voilà. Un pour ma fille, un pour moi. Voilà. Donc, je me suis retrouvée dans cette situation. Donc, effectivement, j'ai été molestée, je dirais. Les camions, les marches sont très hautes. J'ai des gros problèmes de jambes. Donc, ma jupe a été déchirée. Bon, enfin, j'ai eu la totale. On nous a plaqués contre un mur. Ils étaient 15. Ensuite, 4 autres sont arrivés. Donc, on était vraiment en exposition. Donc, effectivement, comme vous le constatez, j'ai pas ma langue dans ma poche. Donc, j'ai dit que l'autorité, c'était pas ça. L'autorité de la République, c'était pas ça. Parce qu'on disait, restez tournés, plaqués contre le mur. J'ai dit, c'est niette. J'ai dit, vous représentez l'autorité de l'État. Certes, mais l'autorité, c'est pas ça, quoi. Et donc, je dirais qu'ensuite, bon, bah, la fouille au corps, on m'a enlevé mes collants, enfin, j'ai enlevé mes collants, soutien-gorge, donc vous rentrez pieds nus dans une cellule, pieds nus. C'est-à-dire que moi, j'ai halluciné, quoi. On m'a fait rentrer pieds nus dans une cellule remplie d'urine, je suis restée 16 heures. Ma fille aussi, bon, il y a eu tout un passage au CHU, etc. Bon, ceci dit, je suis sortie au bout de 16 heures avec ma fille, et puis donc vous voyez vaguement un avocat qui vous dit qu'il faut vous taire et accepter ce qu'on va vous donner, c'est-à-dire une composition pénale. Et puis voilà, et vous ressortez de là en plein jour, au bout de 16 heures, vous n'avez pas trop compris ce qui vous est arrivé. Ça s'est effectivement transformé en outrage et rébellion. Mais je dirais, sur les 14 individus qui étaient là, 14 agents de police judiciaire, 3 étaient des gens qui se comportaient, je dirais, en abus de pouvoir. C'est-à-dire humiliation, voilà, la force, quoi, le pouvoir. Sur les autres, non. Les autres étaient spectateurs. Mais je dis, ces 3 individus, c'est ceux qui ont porté plainte, ce sont des gens qui fonctionnent, qui confondent l'autorité et le pouvoir. Et je pense que quand on porte les valeurs de la République, donc à un moment donné, là, c'était des gens zélés, quoi. Et les zélés ont toujours eu droit de cité dans toutes les époques. Et on sait ce qu'ils font. Donc à un moment donné, il faut que ça s'arrête, c'est-à-dire que tout le monde se tait. Donc après, moi, je suis passée finalement en correctionnelle, puisque l'avocat à l'époque, la composition pénale, ma fille n'était pas là, il ne l'a pas reportée, donc je suis passée en correctionnelle. Et en correctionnelle, c'est pire, parce que vous pouvez pas vous exprimer. Un agent de police, de toute façon, est assermenté. Donc moi, j'ai parlé. J'ai dit comment s'étaient passées exactement les choses et effectivement là, ça a été la totale. Et les jours amendes, alors ce qu'on parle pas dans ce truc, parce que les policiers doivent faire du chiffre, ça c'est certain. Bon, ce qu'on parle pas, c'est l'argent que ça rapporte à l'État, c'est-à-dire les jours amendes, parce que ces jours vont pour... c'est de l'argent qui va directement entre les mains de l'État. En plus, on ne parle pas non plus de tous les intermédiaires, parce que ça nécessite avocat, ça nécessite lettre de huissier, parce que les huissiers sont partout, ils sont en prison, les blousers, pour apporter les comptes rendus de tribunaux aux prisonniers. Ils sont dans le cadre des gardes à vue pour apporter la lettre de convocation au tribunal. Donc on les trouve partout. Et donc il y a tout un business parallèle au garde à vue, parce que ça rapporte de l'argent,
ouais,
également à l'État.
Alors vous pouvez le constater, Manuel Adikoumé, qui donc avant tout artiste peintre, est aussi devenu une sorte de sociologue qui vit les choses et qui les décrypte forcément avec son regard, l'expérience qu'elle a et ce qu'elle a pu vivre. Juste alors en très peu de temps, en quelques minutes, parce que là l'émission est quasiment terminée, vous espérez quoi, vous attendez quoi aujourd'hui?
Bah là actuellement, j'ai pas beaucoup de jours, j'ai 10 jours. J'espère trouver un lieu pour mettre toutes mes œuvres et pouvoir résider en Suède et continuer mon travail, quoi.
Donc si quelqu'un nous
un
entend...
Un lieu de 100 mètres carrés, quoi. 100 mètres carrés avec échange éventuellement d'œuvres d'art et, voilà, ou d'un travail effectif. J'ai déjà fait des fresques, etc.
On mettra sur le site internet...
Et deux camions.
On mettra sur le site internet de la radio HDR quelques photos d'étoiles de Manuel Adikoumé. On peut en voir quelques-unes sur internet déjà. Alors pas, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais on peut essayer d'en voir une ou deux. Si jamais vous avez un local qui peut dans lequel on peut entreposer l'étoile de Manuel Adikoumé et si éventuellement vous avez deux camions pour les transporter de la région parisienne jusque dans l'endroit.
Ou l'inverse, ça peut être aller sur la région parisienne, parce qu'actuellement elles sont toutes dans le 9-3 en fait. Donc moi ce que je cherche, effectivement, il y a le lieu de stockage, mais je cherche surtout un atelier, quoi. Pouvoir y résider et travailler dedans avec échange d'œuvres. C'est surtout ça dont j'ai besoin, quoi. Parce que tout a trop bougé, il y a eu trop de camions et voilà.
Voilà, et donc, vous avez aussi besoin de vendre des toiles. Donc, n'hésitez pas à appeler la radio HDR. Nous, on fera suivre, évidemment, soit au 02 35 12 68 92, 02 35 12 68 92, soit par le biais des emails sur le site internet de la radio, www.radiohdr.fr. Voilà, et puis on va effectivement présenter quelques œuvres dans les jours à venir. N'hésitez pas à aider Manuela Adikoumé, elle en a besoin et ça en vaut la peine. Elle a fait un très très gros travail, un très très beau travail à découvrir. Absolument. Allez, on s'en va. Merci beaucoup, Manuela Adikoumé. À très bientôt. Allez, ciao!